Fils de Dieu. Nous le croyons de tout notre cœur. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons pardonnés et que nous ayons la vie éternelle. Et qu'un jour nous puissions être avec toi. Toi, notre frère aîné, que nous dit la parole aussi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Ouvre encore nos cœurs et notre esprit. Et que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Que nous puissions être attentifs à ta voix. Enlève toute fatigue et toute lassitude, Seigneur. Rafraîchis nos esprits et nos pensées. Et que ton Esprit Saint vienne vraiment nous renouveler les uns et les autres. Merci encore pour ta parole. Mets ton onction sainte, Seigneur, et inspire selon les besoins de tes enfants, afin que nous soyons fortifiés dans la foi et que nous partions d'ici en vainqueurs et pour vaincre. Merci, Seigneur. Il veut encore continuer son œuvre en nous. C'est le bon berger. Il veut toujours être près de ses brebis et il veut toujours nous aider à nous rapprocher toujours plus de lui. Car c'est auprès de lui qu'est notre sécurité, notre paix parfaite. Amen.
Amen.
En lui et en lui seul. Nous allons poursuivre encore un peu nos méditations sur la croix, car nous avons besoin de venir et de revenir à ces vérités. Et nous allons voir, tout à l'heure nous avons vu l'œuvre parfaite de la croix, et maintenant nous allons voir la signification de la croix. Alors bien sûr, nous en avons déjà un peu parlé tout à l'heure, mais nous allons voir spécialement cette pensée de la signification de la croix. L'apôtre Paul lui-même le disait, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Remarquez-le bien. La puissance de Dieu se trouve dans la prédication de la croix. Et si vous le remarquez aujourd'hui, une des grandes faiblesses de l'Église, c'est ce manque de prédication sur la croix. Vous serez étonnés, vous-même vous en êtes rendu compte, combien il y a peu de prédication sur la croix. De moins en moins. Et cela, c'est un très mauvais signe spirituel. Car moins la croix est prêchée, moins les chrétiens sont transformés. C'est la vision de la croix, la signification de la croix dans la vie d'un chrétien qui transforme quelqu'un, un chrétien. Si la croix ne transforme pas quelqu'un, rien ne pourra transformer ce chrétien. Amen. C'est la motivation la plus profonde, la plus réelle. Et c'est ce qui motivait Paul quand il disait « Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voyez-vous comme il était exclusif. « Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et disait-il « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul avait compris quelque chose que beaucoup de prédicateurs n'ont pas compris et que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. La force de son ministère était là, dans la prédication de la croix. Tous les hommes de Dieu qui ont été puissamment utilisés ont été des hommes qui ont prêché la croix. Amen. Et si nous voulons une action plus profonde du Saint-Esprit dans nos vies et au milieu de nous, c'est le message de la croix qui sera le canal pour que cette action agisse au plus profond de nous-mêmes, ce ne soit pas seulement des actions émotionnelles, sentimentales, où on dit on a passé un bon moment, mais dès que nous sortons de la salle, on a l'impression que tout disparaît. Tout est si superficiel aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Et même les chrétiens aiment la superficialité. Ils aiment quand il faut s'amuser, quand il faut venir à l'église uniquement pour recevoir. Mais donner, se donner, hein, non, ça c'est pas pour nous, ça c'est toujours pour les autres. On vient pour recevoir, on veut pas plus. Et il faut pas trop demander. Sinon, vous savez ce qu'on vous dit, vous êtes légalistes. Vous nous mettez sous une loi. Mais il n'y a pas de loi. Quand la croix est prêchée, ce n'est plus la loi qui entre en jeu. C'est au contraire la réponse d'amour de notre part. Amen. Amen. Ainsi, mes amis, nous ne devons jamais nous lasser, non seulement d'entendre, mais aussi d'annoncer, de parler de la croix de notre Seigneur Jésus. C'est là le message que le diable déteste. Parce que c'est non seulement à la croix que Jésus a pardonné nos péchés, mais pour le diable, c'est à la croix qu'il a été vaincu. Et il le sait. Et chaque fois que la croix est prêchée, c'est comme si nous confessions à nouveau sa défaite. Et cela, il ne peut pas le supporter. C'est pourquoi le diable ne supporte pas la prédication de la croix. C'est son lieu de défaite. Et il est prêt à nous faire parler de mille autres choses et nous éviter l'essentiel. Ainsi, nous devons toujours plus demander au Seigneur, « Seigneur, que tu touches encore mon cœur davantage et que cette prédication de la croix fasse de moi un homme, une femme tout à fait nouvelle, un chrétien transformé. » Et nous allons lire dans l'évangile de Luc, un passage que vous connaissez à la fin, au chapitre 23, la crucifixion de Jésus. Mais cette fois, nous allons voir un autre aspect, à partir du verset 32, si vous voulez. Et vous allez remarquer que là, tous ceux qui étaient au pied de la croix ne comprenaient pas pourquoi Jésus mourait. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, descends de la croix, et beaucoup de choses. Voyez-vous, ils ne comprenaient pas le véritable message de la croix. Alors, laissons-nous imprégner par ces paroles. Luc 23, versets 32 à 43. On conduisait en même temps deux malfaiteurs. Je vous lis ce passage parce que je vais vous parler, je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes gens qui étaient un peu deux malfaiteurs, disons. Et de l'histoire de ces jeunes gens, nous allons retirer quatre significations précises de la croix. Alors nous allons y revenir tout à l'heure. En même temps, deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, c'est-à-dire Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'était là la première parole de la croix. Il ne pensait pas à lui-même, il pensait aux autres, à ses bourreaux, à ceux qui étaient autour de lui. « Car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Vous voyez, des magistrats, des gens intelligents. C'est eux qui dirigeaient la société à ce moment-là. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. » Voyez-vous, des gens intelligents qui ont fait des études et tout, et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi Jésus est mort. « S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Les soldats aussi ne comprenaient rien. Voyez-vous, pour eux, c'était vraiment incompréhensible. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Le malfaiteur aussi ne comprenait rien du tout. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Et vous savez, ce deuxième brigand n'a pas toujours été bien disposé. Dans un autre évangile, il est dit que les deux malfaiteurs se moquaient de Jésus. Donc, tous les deux étaient contre lui. Et à un moment donné, quelque chose a changé dans ce malfaiteur. Voyez-vous, il s'est laissé travailler par la présence du Seigneur, les paroles du Seigneur. En un instant, nous pouvons comprendre beaucoup de choses. Quand l'Esprit de Dieu nous éclaire et quand notre cœur est ouvert à sa parole. En un instant, nous pouvons comprendre des choses que nous ne comprendrons jamais après 50 ans d'études, si notre cœur n'est pas ouvert et si l'Esprit de Dieu ne nous éclaire, n'est-ce pas vrai? Ainsi, un des malfaiteurs s'est converti, il s'est passé quelque chose en lui. Et chaque fois que je lis ce passage, je me souviens d'une histoire que j'avais lue, d'un prédicateur indien qui est décédé maintenant, qui a vécu dans les années 30 à peu près. Certains peut-être le connaissent, c'est le Sadhu Sundar Singh. Il y a quelques beaux livres, très rares maintenant, de lui. Mais ce récit dont je vous parle vient de lui. Et chaque fois qu'il voulait expliquer la croix, il racontait cette histoire. Et je trouvais que c'était dit simplement, mais des vérités profondes nous sont données. Parce que non seulement vous devez vous comprendre en tant que chrétien le message, mais il faut savoir l'expliquer encore aux autres. Si on disait maintenant, quelle est la signification de la croix en peu de mots, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, il est mort pour tous, oui, il était, oui, quoi, oui. Et on est vite embarrassé, n'est-ce pas vrai? Il faut qu'il y ait des pensées précises en nous. Et cette histoire des deux jeunes gens est celle-ci. C'était deux garçons qui étaient toujours ensemble et qui faisaient malheureusement des mauvais coups ensemble. L'un était riche et l'autre était pauvre. L'un avait des parents très riches et l'autre, le pauvre, n'avait qu'une maman très pauvre. Un jour, le jeune homme riche a dit à son copain, « Depuis quelque temps, je pense à un coup que nous pouvons faire. Nous allons attaquer une banque. Tu viens avec moi, hein ?» L'autre, comme c'était son copain, il n'a pas osé dire non. Il dit, « D'accord. » Alors, ils ont fait leur coup. Et au bout de quelque temps, ils se sont fait attraper. C'est ce qui arrive. Si on ne se fait pas attraper ici-bas, en tout cas, on se fera attraper là-haut. Si on passe entre les gouttes ici, on ne passera pas entre les gouttes là-haut, n'est-ce pas vrai? Donc, ils ont été jugés et condamnés à une forte amende. On les a mis en prison. Le jeune homme riche, il ne s'est pas tellement fait de la peine, pas tellement fait du souci. Il a dit, c'est ça que vous demandez? C'est une grosse somme quand même. Il écrit à son papa, « Papa, s'il te plaît, envoie-moi cette grosse somme d'argent. On me la demande pour me libérer de la prison. » Effectivement, le lendemain, l'argent est arrivé et notre jeune homme riche est sorti, sans problème, sans grosse difficulté. Mais pour le jeune homme pauvre, c'était autre chose. Il n'avait qu'une maman pauvre et la maman a su qu'il était en prison. La maman est venue le voir le soir en lui disant, « Fils, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu vois, on a mal agi et maintenant je suis puni. Et ton copain, il est où? Ah ben lui, il est déjà sorti, il est sorti ce matin. Pourquoi? Eh ben, il fallait une grosse somme d'argent, tu connais, son père est riche. Il a envoyé l'argent, il est sorti. Alors maman, tu vois, pour que je sorte de cette prison, il me faut tant d'argent. Et la maman, qui était pauvre, mais qui aimait son fils, a dit, mon fils, c'est une grosse somme d'argent, mais je vais travailler du mieux que je peux. Je vais travailler très dur pour récolter cette somme, afin que tu sois libéré. Et la maman, tous les soirs, venait voir son fils. Mais elle venait dans un état un peu pitoyable. Elle était dans une grande souffrance, faible, et les mains pleines de sang. Et le fils, voyant les mains de sa maman comme ça, déchirées, pleines de sang, dans une grande souffrance, qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tu es dans cet état-là? Eh bien, mon fils, pour trouver l'argent, je dois travailler dans une carrière. Et là, toute la journée, je ramasse des pierres. Toute la journée. C'est très dur, très dur. Je suis éreinté. Mais je suis obligé. Si tu veux sortir de la prison, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ainsi que la maman venait voir son fils tous les soirs. Et tous les soirs, vous l'imaginez, le jeune homme était profondément impressionné par l'apparence de sa mère, les souffrances de sa mère. C'était dur. Fois qu'elle venait, il se disait, mais pour me sortir de cette prison, quel prix ma maman doit payer pour me sortir de cette prison? Et ça a duré comme cela quelques années. Parce que l'autre avait beaucoup de sous, mais elle ne devait pas gagner beaucoup. Et pour récolter cette somme, il fallait travailler plusieurs années. Enfin, l'argent est arrivé. Elle a gagné cet argent qu'elle avait mis de côté, une grosse somme. Elle est arrivée, elle a dit, fils, voilà, nous allons maintenant aller voir les responsables et leur dire que l'argent est là. Ils sont allés, voilà l'argent. Oui, eh ben, le fils peut partir avec vous. Il quitte la prison. Le fils tient bien sûr sa maman par la main, comme cela, très touché, très impressionné, très ému, tremblant. Et ils avaient fait 100 mètres comme cela. Ils avaient quitté la prison et ils devaient prendre un virage pour aller à la maison. En prenant le virage, tout de suite derrière le virage, qui est-ce qu'il rencontre? Il rencontre son camarade. D'un seul coup, ils sont nez à nez. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je sors justement de la prison. Ah, mais le jeune homme riche lui dit, oh, ces derniers temps, je pensais à toi. Je pensais à toi. Justement, j'ai dit que quand je le verrai, il y a un coup qui est préparé, un nouveau coup. Il a dit, ça tombe bien. Je te vois maintenant, ça tombe bien. Dans 2 jours, on prépare un nouveau coup. Alors il s'attendait à ce que, comme avant, le camarade dise, bon, d'accord, on va y aller. Mais alors cette fois, vous comprenez comment le jeune homme pauvre a réagi. Il a dit, du calme, hein. Calme-toi un petit peu. Parce que la maman était là. Il lui a dit, toi, tu es sorti de cette prison, ça t'a rien coûté. Tes parents étaient riches, ça leur a rien coûté, vraiment. Mais moi, je suis sorti de cette prison. Et pendant des années, ma maman est venue me voir. Et j'ai compris à quel prix j'étais libéré. Comment veux-tu que maintenant, en ayant vécu cela, que je retourne faire les mauvaises choses avec toi? Il lui a dit, va chercher quelqu'un d'autre si tu veux, mais avec moi c'est terminé. Et ce jeune homme est parti avec sa maman, étant plus le même jeune homme, complètement transformé. Amen. Alors il y a là, dans ce simple récit, quatre vérités importantes. qui nous révèle la signification de la croix. C'est très important de réaliser ces choses. La première vérité, c'est la culpabilité de l'homme. Ils ont mal agi tous les deux et ils ont été punis et jugés. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la première vérité concernant la croix, nous devons réaliser que si Jésus est monté sur la croix, c'était à cause de notre culpabilité. C'est là une vérité importante, car c'est là ce que l'homme a le plus de peine à admettre. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme moderne aujourd'hui, la chose la plus difficile à dire, pardon, je me suis trompé, j'ai mal agi. Est-ce que ça sort facilement de la bouche? Des inconvertis, presque pas. Et des chrétiens, ça a de la peine aussi, vous êtes d'accord avec moi? Ça devrait sortir plus facilement de notre cœur parce qu'on connaît autre chose. Mais ceci pour vous dire que combien l'homme a de la peine à réaliser ce sentiment de culpabilité. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La première vérité de la croix est celle-ci. Si Jésus est monté sur la croix, c'est que c'est à cause de mon péché, de ma culpabilité. C'est mon jugement qu'il a porté, ma condamnation. Lui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Et où la première vérité, d'ailleurs, c'est peut-être la plus difficile à admettre, que quelqu'un dise « Je suis pécheur, je suis perdu, j'ai mal agi, je mérite le châtiment de Dieu, je suis perdu. » Combien de personnes ont de la peine à admettre cela? Même les personnes religieuses qui souvent font des mea culpa, « Oh Seigneur, pardon, je suis pécheur et tout. » Mais quand vous leur dites, « Oui, tu es pécheur, mais pas seulement pécheur, mais tu es perdu. » Comment perdu? Moi, je ne suis quand même pas un païen. Voyez-vous, tout est superficiel. On dit bien qu'on est bon, qu'on a peut-être fait quelques mauvaises actions, mais être mauvais au point d'être perdu et d'avoir le jugement de Dieu sur nous, on dit, « Mais il ne faut quand même pas exagérer. » Vous voyez? Et c'est là la vérité capitale que nous devons réaliser pour pouvoir ensuite comprendre la deuxième vérité que l'on va voir après. La deuxième vérité, c'est l'amour extraordinaire de la maman. Et en ce qui nous concerne, l'amour extraordinaire de Dieu. Moi qui méritais le jugement, la condamnation, en regardant la croix, je comprends que si Jésus est sur la croix, c'est par amour pour moi, c'est moi qui devais être crucifié, c'est moi qui devais être jugé, c'est moi qui devais être condamné, c'est moi qui devais être séparé de Dieu quand il s'était crié sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'abandon qu'il a expérimenté pendant 3 heures là, c'est l'abandon qu'il a expérimenté pour tous les hommes, car le péché nous sépare de Dieu. Et nous devons bien comprendre cela. Et que si nous ne croyons pas que Jésus a été abandonné à notre place, alors un jour, nous serons abandonnés éternellement par Dieu. Et c'est cela l'enfer. Quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'il prenait cette agonie la plus grande, la plus suprême de l'enfer. C'est l'abandon de Dieu. L'isolement total. Et quand Jésus est mort sur la croix, il y a là cette vérité. Il a été abandonné pour que toi et moi, nous ne soyons jamais abandonnés par Dieu le Père. Amen. Mais si nous ne croyons pas qu'il a été abandonné à notre place, notre péché mérite l'abandon de Dieu pour l'éternité. Et imaginez-vous, mes amis, l'enfer, c'est cela. C'est l'abandon de Dieu. Les ceux qui sont là-bas se sentent abandonnés. Abandonnés, non point pour un jour, non point pour 10 jours, non point pour 1000 ans, mais pour l'éternité. Réfléchissons, c'est quelque chose de terrible. C'est pourquoi quand Jésus s'est écrié sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces tourments, cette agonie que l'homme doit vivre en enfer, Jésus l'a subi à ma place et à ta place. Si nous y croyons, nous sommes pardonnés et réconciliés avec Dieu et nous ne serons plus jamais abandonnés. Mais si nous ne croyons pas au sacrifice de Jésus, notre péché, le châtiment suprême du péché, sera l'abandon de Dieu en enfer pour l'éternité. Ce sont des vérités difficiles à dire, n'est-ce pas vrai? Ce sont des vérités bibliques. Et nous ne devons pas les ignorer, mes amis, car des millions seront perdus parce qu'on ne leur a pas dit ces choses sérieuses et solennelles. Première vérité, la culpabilité de l'homme, sa séparation de Dieu à cause de son péché. Et ce péché que nous avons commis mérite le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. Et vous savez que le mot mort, dans ce passage, c'est la séparation d'avec Dieu. La mort n'est pas l'anéantissement de quelqu'un. Après la mort, on dit, mais il n'y a plus rien, c'est fini. C'est pas ça, pas ça du tout. Bibliquement, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Après la mort, tu vivras, mais tu ne vivras pas avec Dieu. Tu vivras abandonné de Dieu. En enfer, quelle tragédie, quelle agonie! Vous comprenez pourquoi le diable déteste ce message? Car il voudrait bien sûr, comme lui le sait, l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges, pas pour les hommes. Dieu n'a jamais prévu l'enfer pour l'homme. Mais s'il ne croit pas au message de l'Évangile, à l'amour incomparable, extraordinaire de Dieu qui envoie son Fils prendre notre jugement, notre agonie, notre enfer sur lui, notre abandon, notre séparation, pour que nous ne goûtions jamais cette séparation éternelle d'avec Dieu. Combien nous pouvons bénir le Seigneur. Amen. Mais il y en a qui sont sur le chemin de l'éternité et qui pensent qu'en enfer, on pourra encore s'amuser. Et ils pensent que c'est la suite d'ici-bas. De toute façon, ils ne seront pas tout seuls en enfer. Non, mes amis, c'est un lieu de pleurs et de grincements de dents. C'est un lieu d'isolement, de séparation, d'abandon. Il n'est plus question de s'amuser là-bas, c'est le jugement et l'abandon. N'est-ce pas terrible d'être abandonné? Déjà, quand on est abandonné par les siens, c'est une blessure terrible, n'est-ce pas? Nous avons tous plus ou moins expérimenté cela, d'une manière ou d'une autre, abandonné, même peut-être temporairement, ou peut-être définitivement pour d'autres. Quelle douleur, n'est-ce pas vrai? Quelle douleur, cet abandon! Se savoir rejeté, oublié, quelle agonie. Et quand Jésus est mort sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était nous qui devions être abandonnés. Et il a été abandonné pendant 3 heures, là sur la croix. Quel amour. Amen. Comme il y a eu cette maman qui, l'amour de la maman, tout en voyant la culpabilité de son fils, il ne lui a pas dit, bon, ben maintenant, puisque tu as fait ça, tant pis pour toi. Eh ben, tant pis. Est-ce qu'il a pensé comme ça? Non. L'amour cherche toujours un moyen pour sauver, délivrer, sortir de la prison. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu est saint, il doit juger le péché. Sinon, il n'est pas Dieu. Mais il est amour aussi. N'acceptant d'être jugé à notre place, Jésus a pris notre jugement sur lui. Et c'est ainsi que si nous croyons en lui comme notre sauveur, l'amour de Dieu peut se manifester à notre égard. Tu mérites le jugement, mais Jésus est mort à ta place. Si tu crois en son sacrifice, le jugement qui était sur toi et sur lui maintenant, si tu acceptes son jugement à ta place, tu n'as plus à être jugé, car Dieu ne condamne jamais la même faute deux fois. Si ma faute a été jugée en Jésus, je suis libéré, si je le crois. Mais si je ne le crois pas qu'il est mort à ma place, je dois porter mon propre jugement. Amen. Ça, on l'oublie parfois. Jésus est mort, merci Seigneur. C'est son amour extraordinaire. Il est mort à ma place. Si je le crois, je suis pardonné, je suis libéré. Mais si je ne crois pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton péché reste sur toi. Et tu dois subir ta propre condamnation. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors la deuxième vérité, c'est cet amour extraordinaire. Dieu, qui malgré nos fautes, nos erreurs, nos péchés, ne nous a pas abandonnés et nous a envoyé son Fils, son bien-aimé, pour mourir à notre place. Amen. Combien nous pouvons l'aimer, n'est-ce pas vrai? Combien ce Fils pouvait aimer sa maman et lui dire, « Maman, tu es merveilleuse, tu es merveilleuse, tu aurais pu m'abandonner, tu aurais pu me dire, eh bien, tant pis pour toi, c'est tout ce que tu méritais. » Non, il y avait cet amour. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que le péché. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Alléluia! L'amour extraordinaire. C'est la deuxième vérité, c'est quelque chose qui nous dépasse aussi, n'est-ce pas vrai? Alors si certains, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont de la peine à admettre leur culpabilité, leur péché, d'autres, et c'est bizarre, ont de la peine à admettre que Dieu les aime et qu'il est mort pour eux. Comment moi, quelqu'un, je ne suis pas grand-chose, et que Dieu soit mort à ma place, qu'il m'aime, qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour moi, et qu'il m'aime à ce point-là? Mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est beau et c'est vrai en même temps. Alléluia! C'est cela la bonne nouvelle. Ne jugeons pas l'amour de Dieu à nos sentiments, à notre raisonnement humain limité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette maman? C'est incompréhensible, vous êtes d'accord avec moi? À combien plus forte raison? Jean 3,16 vient nous aider là. Dieu a tant. Soulignez bien. Ce petit mot, tant, a tant aimé le monde. Il n'est pas dit Dieu a aimé le monde. Ce serait déjà pas mal s'il avait dit ça. Mais Dieu a tant aimé. Allez comprendre là. Tant aimé. Tant aimé. Cet amour qui ne voulait pas la perte de son enfant, de sa créature, mais qui voulait le rachat, le pardon, la réconciliation. Il voulait qu'il revienne à la maison du Père. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Toujours, il pardonne celui qui revient à lui. Reviens à la maison du Père. Il t'aime encore. Il veut te serrer dans ses bras. Et te dire, je t'aime encore, mon enfant. Viens, reconnais ton état. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as vécu loin de moi. Viens auprès de moi. Mon amour veut te pardonner à cause de Jésus. Amen.
Amen.
Cet amour extraordinaire, nous devons aussi l'accepter par la foi. Par la foi. Parce que ce n'est pas une question de... Bon, il y a du sentiment dans l'amour, mais ça, on ne peut pas comprendre. L'amour de Dieu est tellement, tellement grand qu'on ne peut pas. C'est des choses qu'il faut accepter par la foi. Dieu même, il a donné son Fils unique pour moi, pour porter mes péchés. Merci, Seigneur. Ce sont des vérités capitales, parce que quand quelqu'un a la conviction d'être aimé de Dieu, à un tel point que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il pardonne ses péchés, cette personne-là, plus personne ne pourra la tourmenter ou l'a à faire trébucher d'une manière ou d'une autre, même abandonner de tous, si cette personne sait qu'elle est aimée de Dieu, du Seigneur, elle tiendra debout. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là où il y a cette conviction que Dieu nous aime et qu'il veut nous pardonner, nous relever, nous sauver, nous restaurer. Tant qu'il y a cette conviction de l'amour de Dieu dans notre cœur, il y a de l'espoir. Mais là où il n'y a plus cette conviction, cette foi, cette espérance, mes amis, il n'y a plus de vie possible. Vous êtes d'accord avec moi? La chose la plus terrible dans ce monde, c'est de réaliser qu'on n'est pas aimé, n'est-ce pas vrai? Qu'on n'est pas aimé. Tu peux ne pas être aimé par l'un ou par l'autre. Mais tout cela ne doit pas te traumatiser à un tel point que ça te paralyse dans ta vie. Il en sera de même jusqu'à la fin de tes temps. Mais il y a une chose qui te tiendra, qui te soutiendra. C'est l'amour de Dieu pour toi. Lui te tiendra. Lui ne t'abandonnera pas. Il te relèvera. Il te montrera ce qui ne va pas. Il te redressera parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu ne dit pas, oh, c'est rien, tu peux continuer. La maman n'a pas dit, oh, c'est rien, finalement, c'est pas mauvais ce que tu as fait. Tout, c'est pas si grave. Non, 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 non. L'amour reconnaît toujours la faute, mais cherche à porter la solution. L'amour extraordinaire de Dieu que nous devons recevoir. Et c'est cela, la croix. La troisième vérité, c'est que ce sont les souffrances de Jésus seul qui nous sauvent. Concernant cette maman, c'était ses souffrances, n'est-ce pas? C'est à cause de ses souffrances à elle, du prix qu'elle a payé elle, que son fils a été libéré. Et pour nous, ce sont seulement les souffrances et le sang de Jésus qui nous sauvent. Là encore, c'est une vérité difficile à admettre. Vous êtes d'accord avec moi? Combien de fois vous l'avez entendu? Moi, je l'ai entendu aussi quand on faisait du porte-à-porte il y a des années. Eh bien, quand on parlait avec quelqu'un qui a sa religion, oh, vous savez, quelqu'un a dit une fois, en parlant d'une dame, cette dame qui a tant souffert, si elle qui a souffert ne va pas au ciel, alors personne n'ira au ciel. Alors regardez. Mais ça, ce n'est pas le raisonnement seulement d'une personne, vous êtes d'accord avec moi? Des multitudes raisonnent comme cela et se gargarisent d'une fausse consolation. Mais elle a tant souffert, elle mérite le ciel. Ce sont seulement les souffrances de Jésus qui ne sont pas les tiennes. Comme on l'a vu cet après-midi, tout est parfaitement parfait. C'est fini, il a achevé le travail, c'est fini une fois pour toutes. On ne peut rien ajouter. Et si tu essayes d'y ajouter un peu de tes souffrances pour plaire à Dieu ou pour être sauvé, le ciel est fermé. Et la communion avec Dieu est rompue. C'est une vérité difficile à admettre, mais c'est la vérité libératrice. Le sang de Jésus qui purifie nos péchés et qui aussi nous délivre de la main, du pouvoir de Satan. Alléluia. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations. À la croix, la puissance du diable a été vaincue. Vaincue, c'est pourquoi, quand tu deviens chrétien, non seulement tu es pardonné, mais tu es libéré du pouvoir de Satan. Il ne faut pas encore après te libérer de ce pouvoir, comme certains le font, et qui ne connaissent pas la puissance de la croix. La puissance de la croix est suffisante. Il a dépouillé les dominations, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, le diable a été vaincu, son pouvoir a été brisé. Tu es pardonné et tu es libéré de son pouvoir. Alléluia. Seules les souffrances de Jésus. Il a payé un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi c'est une grande délivrance. C'est un grand pardon.
parce qu'animé d'un grand amour, alléluia, et qui nous délivre d'une grande éternité sans Dieu.
Et pour terminer, la quatrième vérité, c'est la transformation totale de nos vies. Le jeune homme, qu'est-ce qu'il a dit à son copain ? Terminé. Il n'est pas question de retourner avec toi. Pourquoi ? Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il avait compris quelque chose, et c'est ça qu'on doit comprendre. Parce qu'il a compris que c'est au prix, à un grand prix, qu'il avait été libéré de la prison. C'est ça, c'est pour ça qu'il a compris. L'autre, il n'a rien compris. Pourtant, il était sorti de la prison, mais qu'est-ce qu'il a compris, lui ? Rien du tout. Il avait compris qu'il pouvait recommencer. C'est ce qu'il a compris. Qu'il pouvait recommencer, faire les mêmes choses, parce qu'il a échappé une fois, il a eu de la chance, ceci, cela, et qu'il pouvait continuer. Donc, il a compris qu'il n'avait rien compris, finalement. Mais il n'a pas compris qu'il n'avait rien compris. C'est la transformation, parce que l'autre, le jeune homme pauvre, a compris comment... Ma maman a souffert comme ça. Si je recommence mon ancienne vie, si je reviens avec toi, mais c'est mépriser ma mère, et son amour, et ses souffrances. C'est vraiment un mépris, un rejet. C'est comme si je disais, mais tout ce que tu as fait pour moi, c'est rien du tout. Mais c'est la chose la plus abominable, vous êtes d'accord avec moi? Si ce jeune homme faisait ça à sa mère, mais sa mère, elle peut mourir instantanément, je vais presque dire. Ce serait terrible! Et lorsque nous sommes chrétiens, mes amis, pourquoi certains chrétiens ne changent pas ? Ils sont toujours en train de confesser leurs péchés, ils ne changent pas. Ah, ils savent bien confesser leurs péchés, mais ils ne l'abandonnent jamais. Spécialistes pour confesser leurs péchés, mais jamais pour l'abandonner. Spécialistes pour verser des larmes, mais jamais pour changer de vie. Ah oui, ils sont spécialistes. Ah, vous les voyez quand ils prient, quand ils font des beaucoup de choses. Oulala ! Vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? C'est tout du superficiel. C'est tout du cinéma. Il y en a beaucoup qui aiment faire le cinéma. Ils veulent tout simplement attirer les regards sur eux. C'est tout. Mais vous les suivez. Il n'y a rien de changé. Rien de changé. Et pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas compris à quel prix ils ont été délivrés. Voilà pourquoi la prédication de la croix est importante. Amen. Nous avons besoin. Nous en avons besoin. C'est ce qui nous motivera la plus. Si la croix ne nous motive pas à changer de vie, rien ne le fera, mes amis. Même si vous changez d'une manière ou d'une autre, ce sont des choses qui ne vont pas en profondeur. Ce qui va vraiment en profondeur, c'est cette vision de la croix, cet amour de la croix, c'est ce sacrifice de la croix. Qui fait dire à Paul, puisqu'il est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia! Voilà, Paul avait compris quelque chose. La transformation. Quand on voit des chrétiens qui ne veulent pas changer, sont toujours les mêmes. La croix. Sacrifice de la croix n'est pas présent, n'est pas profond en eux. C'est pourquoi nous avons besoin de voir et de comprendre d'où le Seigneur nous a sortis. Amen. Amen. Que son nom soit béni. C'est de cet éternel enfer, de cet abandon éternel, loin de Dieu, que le Seigneur nous a délivrés. Puissions-nous le réaliser et lui dire, Seigneur, désormais je suis à toi. Je veux vivre une vie nouvelle et dire à tous mes anciennes passions, mes anciennes habitudes, comme ce jeune homme pauvre au jeune homme riche, va-t'en maintenant, c'est fini tout cela. J'ai compris le prix de ma libération. Désormais je ne m'appartiens plus à moi-même. Mais à celui qui est mort et ressuscité pour moi. Voilà les hommes et les femmes que Dieu utilisera pour la bénédiction de plusieurs. Puissions-nous être de ce nombre-là. Amen.
Amen.
Voilà, mes amis, quatre simples vérités importantes sur la signification de la croix. Puisse-t-elle toucher nos cœurs au plus profond de nous-mêmes. Pour faire de nous des chrétiens consacrés, entièrement consacré à leur Sauveur, et qui le suivent non pas par intérêt, mais par amour. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, quelles que soient les oppositions, les contradictions, il ne faut pas seulement être un chrétien Alléluia, mais être un chrétien Amen aussi. Un chrétien Alléluia, c'est celui qui loue le Seigneur. Moi, je suis un chrétien Alléluia. Comme vous avez loué le Seigneur, vous l'êtes aussi. Il ne faut pas seulement être un chrétien Alléluia. Il faut l'être, mais pas seulement ça. Il faut avoir les deux jambes si vous voulez avancer. Il vous faut être aussi un chrétien Amen. Ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. C'est la croix dans notre vie. C'est dire, Seigneur, maintenant, tu m'as montré le chemin. Je veux te suivre, coûte que coûte. Dans les bons, chrétien Alléluia. Et dans les mauvais jours, chrétien Amen. Dans l'approbation, chrétien Alléluia. Dans la désapprobation, chrétien Amen. Voilà, tu seras sur tes deux jambes. Sur tes deux jambes, tu iras loin. Mais sur une jambe, tu ne pourras pas aller bien loin. Tu ne pourras pas aller bien loin sur une jambe. Mais sur deux jambes, tu peux aller lentement, mais tu peux aller très loin. Tu peux aller lentement, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est d'aller loin. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Ça, c'est pour les Italiens, ça. Qui va doucement va... Non, sûrement. Oui, qui va doucement va sûrement, et qui va sûrement va loin. Qui va sano va lontano. Qui va piano va sano. Qui va sano va lontano. C'est tout ce que je sais en italien. Ne m'en demandez pas plus. C'est merveilleux de voir l'œuvre de la croix. Amen. Ce sont des choses toutes simples que je vous dis, mes amis. Mais aujourd'hui, nous nous sommes éloignés de ces choses simples. Et nous sommes tombés dans un mysticisme chrétien où nous cherchons des expériences mystiques qui nous font faire des choses stupides. Et nous les passons sous le nom de christianisme, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Ne nous éloignons pas de ces vérités de base, qui sont notre salut et notre vie éternelle. Amen. Prions quelques instants. Merveilleux Sauveur, merci encore de nous avoir dépeint ta crucifixion. Faiblement, Seigneur, tu vois combien le langage est faible, limité. Mais aide-nous, Seigneur, par ces quelques paroles, à toujours mieux discerner ta voix, à toujours mieux comprendre ce que tu as fait pour nous, afin que nous soyons des chrétiens conséquents et non pas des chrétiens qui suivent à l'aveuglette comme cela, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, tournant autour d'eux-mêmes et ne cherchant qu'à s'amuser spirituellement parlant. Merci, Seigneur, de parler à nos cœurs et de trouver en nous, surtout, des cœurs obéissants, afin que tu puisses nous bénir et nous utiliser pour le bien d'un grand nombre. Et à ton nom seul soit toute la gloire. Amen.